Le journal Margot Delpierre. Bonjour Margot.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Des médias américains annoncent une attaque israélienne en Iran en représailles à celle du week-end dernier. Nous retrouverons notre correspondant à Téhéran.
Les moins de 25 ans sont très courtisés par les partis politiques indiens alors que les élections générales commencent aujourd'hui. Un reportage à New Delhi.
Où en est l'enquête sur le dispositif de sécurité de la ville de Nice le jour de l'attentat le 14 juillet 2016 ? Nous ferons le point.
Être européen en France, c'est une journée spéciale sur France Culture. Zoom dans ce journal sur le fret ferroviaire. Et dans son billet politique à 8h15, Stéphane Robert nous dira qu'en France, les formations politiques ont tendance à nationaliser les enjeux du scrutin.
Israël a lancé une attaque contre l'Iran, ont affirmé cette nuit des médias américains citant des hauts responsables aux États-Unis. Attaque en représailles à celle iranienne du week-end dernier sur le territoire israélien. Téhéran a fait état de 3 explosions près d'une base militaire dans le centre du pays. L'Iran a activé sa défense aérienne dans plusieurs provinces. Des drones ont été abattus, mais il n'y a pas eu d'attaque par missile jusqu'à présent, ont indiqué les autorités iraniennes. Siavosh Ghazi.
Désormais, les médias et les officiels iraniens démentent toute attaque contre l'Iran depuis l'extérieur. Un porte-parole de l'armée a même affirmé que les bruits d'explosions entendus ce matin à Isfahan étaient dus à l'entrée en action du système de défense anti-aérien contre des objets volants suspects. Dans la bouche des Iraniens, cela désigne des heli-shots ou des quadcoptères. Dans un premier temps, les médias avaient rapporté une forte explosion dans les alentours de la ville et 3 petits objets volants par la défense anti-aérienne. La télévision iranienne diffuse également en direct des images de plusieurs places et endroits à Isfahan où on voit une circulation automobile normale et des habitants se promener le long du fleuve Zayanderoud. Isfahan et sa province abritent les principales bases nucléaires du pays, avec notamment l'immense usine d'enrichissement de Natanz. Les autorités ont également annoncé la réouverture des aéroports de Téhéran et d'Isfahan, dont les activités avaient été suspendues provisoirement. Ainsi donc, pour Téhéran, il ne s'est rien passé et il n'y a donc pas besoin d'une nouvelle attaque contre Israël, comme l'avaient promis différents responsables iraniens qui avaient affirmé qu'en cas d'attaque israélienne, la réponse de l'Iran sera beaucoup plus sévère.
La correspondance en Iran de Siavosh Ghazi. Nous ferons le point dans nos prochaines éditions. L'Australie a de son côté exhorté ses ressortissants à quitter Israël et les territoires palestiniens. 968 millions d'Indiens sont appelés à élire leurs députés à partir d'aujourd'hui. 15 millions d'agents électoraux sont mobilisés dans les bureaux de vote. Les élections vont durer 6 semaines. Le premier ministre nationaliste hindou Narendra Modi brigue un 3e mandat et il est donné favori. Les jeunes, qui forment 40% de la population, sont très courtisés. Les moins de 25 ans représentent un réservoir de vote important. Alors se sentent-ils concernés par ces élections ? Pour qui voter ? Le reportage à New Delhi de Valérie Crova.
Avec son costume bleu marine et sa chemise blanche, il a tout d'un homme d'affaires. Prashant travaille dans le secteur bancaire, il a 26 ans et a fait son choix.
Lorsque Modi est arrivé au pouvoir, l'Inde était au 10e rang mondial. Nous sommes désormais numéro 5. J'espère que nous deviendrons la 3e économie mondiale.
C'est d'ailleurs l'objectif de Narendra Modi d'ici 5 ans. Nettement plus critique, Yeshpal énumère ce qui ne va pas depuis que le Premier ministre et son parti sont arrivés au pouvoir il y a 10 ans.
Les prix augmentent, le chômage augmente également. Dans mon état, l'Ariana, le taux de chômage est de 35%. Malgré cela, le BJP joue sur la politique des castes et sur la religion. Je ne voterai jamais pour lui.
Dans cette université privée, Saïcha et son ami Tasha voient en Narendra Modi le seul candidat capable d'incarner l'Inde d'aujourd'hui.
Modi a cette aura, ce leadership, cette compétence qui influence beaucoup de gens.
En fin de compte, si ce n'est pas Modi, alors qui ? Tu peux voter pour Rahul Gandhi, mais la situation ne fera qu'empirer.
Le descendant de la dynastie des Gandhi, qui dirige l'historique parti du Congrès, souffre d'un déficit d'image face à la machine de guerre de Narendra Modi.
Valérie Crova avec Fabien Gosset à New Delhi. Des scrutins régionaux se profilent cet été en Allemagne et le leader de l'AFD en Thuringe fait parler de lui pour avoir utilisé un slogan nazi pendant l'un de ses meetings de campagne. Jugé depuis hier, Björn Höcke, l'une des personnalités les plus sulfureuses de l'extrême droite dans le pays, risque jusqu'à 3 ans de prison. Sébastien Baer.
Regard bleu acier et silhouette svelte, Björn Höcke est coutumier des provocations verbales. En 2017, il avait qualifié le mémorial de la Shoah à Berlin de monument de la honte. Cette fois, c'est un slogan interdit, prononcé en 2021 à la fin d'un meeting de campagne, qui lui vaut d'être jugé. « Tout pour notre patrie, tout pour la Sachsen-Anhalt, tout pour l'Allemagne », avait décrété le leader de l'extrême droite. Cette dernière partie, « Tout pour l'Allemagne », était la devise des sections d'assaut paramilitaires qui ont contribué à la conquête du pouvoir de Hitler. Pour sa défense, Björn Höcke, qui a pourtant enseigné l'histoire pendant 15 ans dans un lycée, affirme qu'il ignorait tout de cette triste référence historique, ce qui ne l'a pas empêché de récidiver et de reprendre le même slogan en décembre dernier lors d'une autre réunion publique. À 52 ans, Björn Höcke est l'un des hommes forts de l'extrême droite allemande. Il dirige l'AfD de Thuringe depuis sa création en 2013 et préside le groupe parlementaire régional. Ses positions contre l'islam et ses propos complaisants sur Hitler font de lui l'une des figures les plus radicales du parti. À l'ouverture de son procès, plusieurs centaines de manifestants se sont rassemblés devant le tribunal en brandissant des banderoles sur lesquelles on pouvait lire « Stopper l'AfD » ou encore « Björn Höcke est un nazi ».
Les précisions à Berlin de Sébastien Baer.
8h06 sur France Culture, la suite du journal de Margot Delpierre. À l'occasion des 100 premiers jours passés à Matignon et à moins de 2 mois des élections européennes, Gabriel Attal donnait hier soir une longue interview à BFM TV.
Oui, et cela alors que la liste Renaissance est largement distancée dans les sondages par celle du RN conduite par Jordan Bardella. Gabriel Attal est donc venu faire passer un message hier soir, Rosalie Lafarge.
La phrase est martelée par son camp depuis des semaines. Gabriel Attal s'aligne.
Ces élections européennes, c'est pour moi les plus importantes, probablement, depuis que les élections européennes existent. Personne ne peut croire qu'on sera plus fort en étant plus seul, c'est-à-dire avec moins d'Europe.
Et si la liste de la majorité ne décolle toujours pas?
C'est que je crois que les Français ne sont pas encore entrés véritablement dans la campagne des européennes. Le vrai débat des européennes, et je le déplore, je pense qu'il n'a pas encore véritablement commencé. Notamment parce que les oppositions ne veulent pas parler d'Europe.
Et pour cause, insiste le Premier ministre, des deux côtés de l'échiquier, on a décidé d'enjamber le scrutin.
Vous avez les listes de la NUPES, Parti Socialiste, France Insoumise, Les Verts. Pour eux, le sujet de l'élection européenne, ils le disent assez régulièrement, c'est une primaire. Pour les élections de 2027, l'Europe est accessoire. Et de l'autre côté, vous avez les listes, on va dire droite, extrême droite, qui eux sont aussi dans un match de savoir qui va prendre le pouvoir, entre guillemets, de ce côté-là de l'échiquier.
La majorité, elle, va se battre pour l'Europe, promet encore Gabriel Attal, qui refuse d'acter dès aujourd'hui la défaite, quand le RN, lui, savoure quasiment déjà sa victoire.
Je trouve toujours que des candidats qui expliquent matin, midi et soir, en fait, on a déjà gagné, je trouve que c'est pas très respectueux pour les Français qui vont être amenés à faire leur choix.
Présenté par certains au départ comme une arme anti-Bardella pour ce scrutin, le Premier ministre écarte l'expression, rejette une fois de plus l'idée d'un débat face à la tête de liste RN et remet entre les lignes son investissement personnel dans cette campagne à plus tard, alors que le président, lui, compte bien tenter de donner un coup d'accélérateur la semaine prochaine en prononçant ce qu'il veut être un nouveau grand discours sur l'Europe à la Sorbonne, 7 ans après son premier plaidoyer.
Plus de 2 heures d'interview hier soir après un déplacement dans l'Essonne à Viry-Châtillon où Gabriel Attal a promis une réponse rapide du gouvernement contre la violence des jeunes. Il se dit notamment prêt à ouvrir le débat sur des atténuations à l'excuse de minorité, ce qui permet à un mineur d'être moins lourdement condamné qu'un majeur pour le même délit. Par ailleurs, il a assuré que l'engagement du président Emmanuel Macron sur une baisse d'impôts de 2 milliards d'euros pour les ménages sera tenu, mais conditionné à une mesure d'économie équivalente. Et à l'approche des élections européennes, France Culture met en lumière plusieurs pays, plusieurs défis dans le cadre de nos vendredis être européen. Aujourd'hui, la France et la question des transports, plus particulièrement le manque de fret ferroviaire. C'est seulement 10% du transport des marchandises dans l'Hexagone contre 18% en Europe. Et ça ne risque pas de s'améliorer. La SNCF risque une amende de 3 milliards d'euros de la part de la Commission européenne pour concurrence déloyale suite à des aides de l'État pour sa branche fret. Bonjour Hakim Kasmi.
Bonjour Margot Delpierre.
Du service économie de la rédaction, vous vous êtes rendu en Haute-Savoie, dans la vallée de l'Arve, qui permet de rejoindre le tunnel du Mont-Blanc. Là-bas, faute de voies de chemin de fer pour ces trains de fret, ce sont chaque année pas moins de 600 000 camions et 1 million de voitures qui transitent pour se rendre en Italie, ce qui fait de ce département, Hakim, l'un des plus pollués de France.
Oui Margot, dans la vallée de l'Arve, 40% des émissions de partenariat particules fines sont liées au diesel qu'utilisent les camions et les automobilistes. L'autre partie provient des fumées dégagées par le chauffage au bois et l'industrie, notamment celles liées à l'incinération des déchets et aux entreprises de décolletage. Le décolletage correspond à la fabrication de petites pièces telles que des boulons ou des vis pour l'industrie de l'horlogerie très présente ici en Haute-Savoie ou encore pour l'automobile, la santé ou l'aéronautique. Enfin, si la pollution est si importante, c'est aussi pour des raisons géographiques, car la vallée de l'Arve ne fait que 1 km de large lorsqu'on est dans la vallée de Chamonix à quelques kilomètres du tunnel du Mont-Blanc, ce qui fait d'elle une véritable cuve où les particules fines ont beaucoup de mal à s'évacuer, notamment lorsque les températures sont très basses en hiver.
Et on écoute maintenant votre reportage, Hakim. Il commence près de Chamonix sur la route blanche, juste à côté de l'entrée du tunnel du Mont-Blanc.
Nous sommes sur la route blanche, au pied du Mont-Blanc, une voie rapide sur laquelle circulent chaque jour 1500 camions pour traverser le tunnel et rejoindre l'Italie. Car le fret ferroviaire est ici quasi inexistant. Ce que dénonce Anne Lassmann-Trappier, la présidente de l'association Inspire.
Il y a une voie ferrée qui existe dans la vallée d'à côté, en Maurienne, pour la traversée des Alpes, qui est très sous-utilisée. Et ça fait une vingtaine d'années qu'on se bat, qu'on demande qu'elle soit mieux utilisée pour transférer une partie des marchandises qui passent aujourd'hui par la route et qui émettent beaucoup de polluants de l'air, mais aussi beaucoup de gaz à effet de serre. On a aussi des glaciers qui reculent à une vitesse phénoménale pour mieux utiliser ce rail et transporter plus de marchandises par le rail.
Pour autant, s'il existe bien des projets pour faire circuler des trains de marchandises, le réseau ferré est très usagé. Et pour l'instant, ni l'État ni les SNCF refusent d'investir. Ce que regrette Éric Fournier, le maire de Chamonix.
On a un soutien extrêmement fort de l'Europe, notamment sur la section internationale, puisqu'il finance la majeure partie des travaux. On estime que ce qu'il resterait en résiduel pour le financement des accès pour la section française, c'est moins de 300 millions par an pendant une dizaine d'années. C'est donc parfaitement accessible quand on considère le budget, les budgets consolidés à la fois de l'État et des principales collectivités concernées.
En attendant, la circulation des camions dans la vallée de l'Arve n'est pas sans conséquence sur la santé des habitants, et cela, quel que soit leur âge. En effet, les bébés et les enfants ont régulièrement des problèmes respiratoires, tels que des bronchites ou des bronchiolites, comme le constate dans son cabinet Mallory Guyon, médecin généraliste dans la commune des Ouches.
Quel que soit l'âge, quels que soient les antécédents, les familles, en tout cas, viennent et me disent « Oh là là, on comprend pas, ben, on tousse toujours ». Cette année, moi, j'étais sciée de voir autant de gens tousser et je voudrais pas alarmer, mais j'en ai beaucoup que j'ai quand même mis sous Ventoline et cortisone.
Enfin, selon la dernière étude de Santé publique France, chaque année, 40 personnes meurent dans la vallée de l'Arve à cause des particules de dioxyde d'azote rejetées par les camions.
Reportage signé Hakim Kasmi. Être européen en France, on en reparlera aussi dans le journal de midi et demi. L'invité de Thomas Cluzel sera Olivier Costa, directeur de recherche CNRS au Centre Émile Durkheim et directeur d'études au Collège d'Europe de Bruges. Un nouveau procès commencera lundi à Paris après l'attentat du 14 juillet 2016 à Nice. Il avait fait, on s'en souvient, 86 morts et 450 blessés. Deux des accusés ont fait appel du verdict rendu il y a bientôt un an et qui les avait condamnés à 18 ans de réclusion criminelle. En revanche, l'instruction n'est toujours pas terminée dans un autre volet de cet attentat. L'enquête ouverte sur le dispositif de sécurité de la ville de Nice, ce jour-là, lorsque le terroriste a foncé sur la foule à bord d'un camion sur la promenade des Anglais. Mais le dossier a été dépaysé à Marseille. Peut-être un nouveau départ, Florence Turm.
Pourquoi les caméras de vidéosurveillance n'ont-elles pas détecté le repérage du terroriste? Pourquoi ne pas avoir installé de plots en béton à l'entrée de la promenade? Les moyens matériels et humains étaient-ils suffisants? Au premier procès de l'attentat fin 2022, les victimes ont été nombreuses à formuler leurs doutes, notamment face à Christian Estrosi, le maire de Nice, appelé à la barre. Christian Estrosi, placé tout comme trois autres personnes sous le statut de témoin assisté dans l'enquête sur la sécurité, mais jamais mis en examen, souligne l'avocat de la ville, Archibald Céléron.
C'est une instruction qui est ouverte depuis plus de 7 ans maintenant. Aucune mise en cause et aucune mise en examen de la ville. La ville de Nice, elle se tient aux côtés des victimes depuis le premier jour dans ce qui est un attentat qui était inédit dans sa forme à l'époque, qui est un attentat donc imprévisible par nature. Et évidemment, la ville de Nice continuera à coopérer à cette enquête comme elle l'a fait depuis le début et à apporter les éléments lorsqu'on lui demande ce qu'elle a fait depuis le début.
D'abord ouverte à Nice, l'instruction vient tout juste d'être confiée au pôle spécialisé des accidents collectifs à Marseille pour blessures et homicides involontaires et plus seulement mise en danger d'autrui. À charge pour les nouveaux juges de réexaminer les pièces et d'ordonner de nouveaux actes d'enquête, comme le demande Virginie Leroy, avocate de nombreuses parties civiles.
On est 8 ans après l'attentat, 8 ans pour avoir des réponses, c'est long. Donc voilà, j'attends que ces demandes d'actes elles soient effectuées et j'attends aussi qu'il y ait des nouvelles auditions des témoins assistés ou d'autres personnes, c'est pas du tout exclu, qu'on rentre un peu dans le vif du sujet, qu'il y ait des mises en examen et qu'on puisse avoir un procès. Un procès me paraît indispensable sur ce dossier.
Mais pour qu'il y ait procès, il faut des charges retenues, des mises en examen prononcées, sinon l'instruction se conclurait par un non-lieu.
Florence Turme, du gris, de la pluie dans le nord-est de la France aujourd'hui, du soleil attendu partout ailleurs, 8 degrés cet après-midi à Metz, 13 à Paris, 16 à Lyon, jusqu'à 19 degrés à Perpignan.